Histoire de France, Jacques Bainville, chapitre 5. Pendant 340 ans, l'honorable maison capétienne règne de père en fils. Les premiers règnes furent sans éclat. Pendant une centaine d'années, cette royauté fit petite figure. Quel domaine étroit! Avec Paris pour centre, ses principales villes étaient Orléans, Étampes, Melun, Dreux, Poissy, Compiègne et Montreuil-sur-Mer. C'était à peu près tout ce que le roi possédait en propre, et maint château fort, au milieu de ses terres, abritait encore des seigneurs qui le bravaient. Comme chef féodal et duc de France, le roi avait pour vassaux directs les comtes de Blois, d'Anjou et du Maine, et les comtes bretons du Mans et de Rennes pour arrière-vassaux. 8 grands fiefs, relevant nominalement de la couronne, indépendants en fait, se partageaient le reste du territoire, si étroitement borné à l'est par l'Empire germanique, qu'il ne toucha même pas partout, au Rhône, et que ni Lyon, ni Bar-le-Duc, ni Cambrai, pour ne citer que ces villes, n'en faisaient partie. Les 8 grands fiefs étaient ceux de Flandre, de Normandie, de Bourgogne, de Guyenne, de Gascogne, de Toulouse, de Gautier, Narbonne, Nîmes, et de Barcelone. La suzeraineté capétienne, sur ses duchés et ses marches qui venaient de l'héritage des Carolingiens, c'était un titre juridique qu'il restait à réaliser et qui ne le serait jamais partout. En fait, les grands vassaux étaient les maîtres chez eux. La dignité royale et l'onction du sacre qui entraînaient l'alliance de l'Église, une vague tradition de l'unité personnifiée par le roi, c'était toute la supériorité des Capétiens. Ils y joignaient l'avantage, qui ne serait senti qu'à la longue, de résider au centre du pays. En somme, le roi comptait peu, même pour ses vassaux directs. Tels étaient les comtes d'Anjou. De leur maison, devait sortir la funeste dynastie des Plantagenets qui, un jour, mettrait la France en danger. L'autorité des premiers Capétiens était d'abord une autorité morale. Elle fut portée très haut chez le successeur de Hugues. Robert le Pieux sentit surtout le caractère religieux de la royauté. Sa tâche politique fut simplifiée par les rivalités qui mettaient aux prises les souverains provinciaux et Robert, prêtre roi, ne finit pas comme le Pieux empereur. Le fils débonnaire de Charlemagne. Après lui, Henri et Philippe, premiers du nom, réussirent à durer, et même à accroître leur domaine. Une expansion modeste commençait. Et déjà, ils avaient aussi le sens européen. Henri Ier épousa la fille du grand-duc de Kiev, qui prétendait descendre des rois de Macédoine. Ainsi, le nom de Philippe entra dans la maison de France. Mais Philippe Ier était si peu puissant que le seigneur de Montlhéry l'empêchait de dormir. Il devait survenir, durant ces 3 premiers règnes, règne obscur, 2 événements d'une immense portée, la conquête de l'Angleterre par le duc de Normandie et les croisades. Nous n'avons pas encore parlé, pour la clarté du récit, de ce qui était arrivé en 911, au temps des grandes calamités, dans la région neustrienne la plus exposée aux invasions par la mer. Incapable de résister aux Normands, l'empereur carolingien avait cédé à leur chef, Roland, la province qui est devenue la Normandie. Et l'on vit encore le miracle qui s'est répété tant de fois dans cette période de notre histoire. Le conquérant fut assimilé par sa conquête. En peu de temps, les nouveaux ducs de Normandie et leurs compagnons cessèrent d'être des pirates. Ils se firent chrétiens, prirent femme dans le pays, en parlèrent la langue, et comme ils avaient l'habitude de l'autorité et de la discipline, gouvernèrent fort bien. Le nouveau duché devint vigoureux et prospère. Les Normands ajoutèrent un élément nouveau, un principe actif à notre caractère national. Toujours enclins aux aventures lointaines, ils s'en allèrent fonder un royaume dans l'Italie méridionale et en Sicile, portant au loin le nom français. Mais tout près d'eux, une autre conquête s'offrait aux Normands, celle de l'Angleterre, où déjà leur influence avait pénétré. Une seule bataille, celle d'Hastings, livra l'île à Guillaume le Conquérant, en 1066. L'Angleterre, qui jusqu'alors ne comptait pas, qui était un pauvre pays encore primitif, peu peuplé, entra dans l'histoire et va singulièrement compliquer la nôtre. Allemagne, Angleterre. Entre ces deux forces, il faudra nous défendre, trouver notre indépendance et notre équilibre. C'est encore la loi de notre vie nationale. On pense que le roi de France ne vit pas sans inquiétude le duc de Normandie grandir de cette manière formidable et, devenu roi en Angleterre, avoir un pied à Londres et l'autre à Rouen. L'Angleterre a d'abord été comme une colonie de la France. C'était notre langue, nos mœurs que Guillaume avait portées dans l'île, avec ses barons, ses soldats et les aventuriers qui, de toutes nos provinces, avaient répondu à son appel. Pourtant, un danger nouveau commençait avec cette conquête. Les Capétiens n'auraient eu un peu de tranquillité que le jour où ils auraient repris la Normandie. En attendant, ils profitaient de la moindre occasion pour intervenir dans les querelles des Normands et pour susciter à leur duc autant de difficultés qu'ils le pouvaient. L'autre événement fut favorable. Les croisades corrigèrent en partie ce que la conquête de l'Angleterre avait d'alarmant. Elles décongestionnèrent la féodalité. En tournant les énergies et les goûts batailleurs vers une entreprise religieuse et idéaliste, Urbain II et Pierre l'Ermite rendirent un immense service à la jeune royauté. Si le pape eut une idée politique, elle visait probablement l'Allemagne avec laquelle il était en conflit. Toute la chrétienté et les plus fidèles partisans de l'empereur germanique, obéissant à la voix du pontife, c'était une victoire du sacerdoce sur l'empire. Cependant, le Capétien que sa modestie tenait à l'écart de ces grandes querelles profiterait du déplacement de force que la délivrance de la Terre Sainte allait causer. Il se trouva qu'au moment de la première croisade, la plus importante de toutes, 1096, le roi de France était en difficulté avec l'Église à cause d'un second mariage irrégulier. Philippe Ier ne participa d'aucune manière à l'expédition, tandis que toute la chevalerie française partait. Nulle part, dans la chrétienté, l'enthousiasme pour la guerre sainte n'avait été plus grand que dans notre pays, au point que la croisade apparut au peuple d'Orient comme une entreprise française. Il en résulta d'abord, pour la France, un prestige nouveau, et qui devait durer dans la suite des siècles. Et puis, beaucoup de croisés disparurent, d'autres qui, pour s'équiper, avaient engagé leurs terres, furent ruinés. Ce fut une cause d'affaiblissement pour les seigneuries féodales, et il y eut deux bénéficiaires, la bourgeoisie des villes et la royauté. Depuis les destructions et la désolation du Xe siècle, des richesses s'étaient reconstituées, la société tendait à se régulariser. Au siècle précédent, la ruine de l'ordre et de la sécurité avait poussé les petits et les faibles à se livrer à des personnages puissants ou énergiques en échange de leur protection. Les circonstances avaient changé. La preuve que le régime féodal avait été bienfaisant, c'est qu'à l'abri des châteaux forts, une classe moyenne s'était reformée par le travail et par l'épargne. Alors cette classe moyenne devint sensible aux abus de la féodalité. La dépendance ne lui fut pas moins insupportable que les petites guerres, les brigandages, les exactions. On avait recherché la protection des seigneurs pour être à l'abri des pirates. On voulut des droits civils et politiques dès que la protection fut moins nécessaire. La prospérité rendit le goût des libertés et le moyen de les acquérir. Ce qu'on appelle la révolution communale fut, comme toutes les révolutions, un effet de l'enrichissement, car les richesses donnent la force et c'est quand les hommes commencent à se sentir sûrs du lendemain que la liberté commence à avoir du prix pour eux. De là devaient naître de nouveaux rapports entre protecteurs et protégés. La bourgeoisie des villes s'était groupée en associations de métiers. Par un phénomène naturel, et que nous voyons se reproduire de nos jours, ces syndicats en vinrent à jouer un rôle politique. Les corporations réunies constituèrent la commune, qui obtenait ses libertés tantôt par la violence, tantôt à l'amiable, ou à prix d'argent. Le seigneur étant à la croisade, le bourgeois s'enhardissait. Ce mouvement faillit d'ailleurs engendrer une autre sorte d'anarchie, celle de la féodalité bourgeoise, car les communes conçurent naturellement l'autorité de la même façon que les seigneurs dont elles prenaient la place. On aurait vu une foule de petites seigneuries républicaines et le morcellement de la souveraineté qui caractérise le régime féodal aurait persisté sous une autre forme. C'est ce qui se produisit en Flandre, en Allemagne, en Italie, où les villes libres et les républiques ont pullulé. En France, l'intervention du roi empêcha le mouvement communal de prendre une tournure anarchique. Ce mouvement fut d'ailleurs très varié, comme l'était le monde de ce temps où tout avait un caractère local, où les conditions changeaient de province à province et de cité à cité. Les communes se fondèrent paisiblement dans le Midi, où survivaient les coutumes municipales de la Gaule romaine. Elles n'allèrent pas sans tumulte au nord. Selon les lieux et les circonstances, elles réussirent ou elles échouèrent, ou bien elles aboutirent à des compromis. Il n'y eut pas d'unité dans ce mouvement. Il n'y eut pas de doctrine. Les communiers s'alliaient à qui ils pouvaient, parfois à de véritables brigands féodaux. Le Capétien, à l'origine, n'eut pas non plus d'autre politique que celle de l'occasion. Il soutenait la commune à Amiens, parce que là, il avait, avec Enguerrand de Coucy, le même adversaire qu'elle. Il la réprimait à Laon, parce que la commune de cette ville était l'alliée de son ennemi, Thomas de Marle, contre l'évêque ami du roi. Ce roi, le premier des Capétiens, qui ait porté le nom de Louis, avait pris soin de se rattacher aux Carolingiens en s'appelant Louis VI. C'était une indication. Avec lui commence la période d'activité de la monarchie capétienne, 1108. Le moment était venu. Si un prince apathique l'avait laissé passer, l'avenir de la France eût été bien compromis. Louis le Gros était énergique et il partit d'une idée simple, être le maître chez lui. Il entreprit des opérations de police militaire, destinées à nettoyer le pays. C'était le programme que son père lui avait indiqué quand il lui montrait le donjon de Montlhéry comme le premier obstacle à renverser. L'ambition du roi de France, au commencement du XIIe siècle, était d'aller sans encombre de Paris à Orléans. C'est au cours de ces opérations, de bien petite envergure et qui lui coûtèrent pourtant de grands efforts, qu'il arriva à Louis le Gros de s'allier au mouvement communal. Dans ses propres villes, il le réprimait quand il y avait des désordres, ou bien il le limitait soigneusement. Il commença aussi à organiser l'administration du royaume avec le souci de garder l'autorité entre ses mains. C'était un homme pour qui les leçons de l'expérience n'étaient pas perdues, et il ne voulait pas s'exposer à créer une autre féodalité. Aussi choisit-il pour fonctionnaires de petites gens qui fussent bien à lui et qu'il changeait souvent de place. À sa suite, les rois de France s'entoureront de roturiers, bons comptables et bons légistes. Son homme de confiance, Suger, un simple moine, sera le ministre type de la royauté. Voilà comment, par la force des choses, les Capétiens, issus du régime féodal, en devinrent les destructeurs. Ils devaient le soumettre ou être mangés par lui. Mais cela ne se fit ni par doctrine ni par système. Si le roi de France ne voulait pas de féodaux dans son domaine, il tenait beaucoup à sa suzeraineté sur les grands feudataires. Il y avait un droit féodal. Les vassaux qui l'eussent violé avaient eux-mêmes des vassaux qui pouvaient le violer à leur tour. C'est pourquoi les Capétiens purent citer à leur cour de justice des princes plus puissants qu'eux, comme les Plantagenets. En somme, le roi de France retenait de la féodalité ce qu'elle avait d'avantageux pour lui. C'était un article d'exportation. À l'intérieur, il s'appuyait sur la grande force morale du temps, l'Église, que sa tradition, invinciblement romaine, portait vers la monarchie, c'est-à-dire vers l'unité. Il s'appuyait aussi sur l'opinion publique, sur le peuple, qui trouvait une protection dans son autorité. Ainsi, la politique capétienne se précisait et se définissait. Elle fondait la nation et l'État. Avant tout, cette politique était nationale, et déjà, le roi personnifiait la France. On le vit lorsque l'empereur allemand, en 1124, tenta encore une invasion. De tous les points du pays, vassaux et milices vinrent se ranger autour du roi et de l'oriflamme de Saint-Denis. Le César germanique ne s'attendait pas à cette résistance. Déjà en marche sur Reims, il rebroussa chemin. On a dit, avec raison, que c'était le prélude de Bouvines. Avec l'ordre renaissant, avec l'excitation intellectuelle des croisades, le goût du savoir et le goût des idées s'étaient ranimés. Quelle erreur de croire que ce siècle lui-même ait été celui de la foi docile et de l'obéissance au maître. Ce fut le siècle d'Abélard, de sa fabuleuse célébrité, des controverses philosophiques, des audaces de l'esprit. Les hérésies reparaissaient, et elles trouvèrent Saint Bernard pour les combattre. La croisade contre les Albigeois était proche. Il y avait aussi des bouillonnements d'indiscipline et, pendant sa régence, il faudra que Suger ait la main lourde. Les hommes de ce temps-là ont eu les mêmes passions que nous. Sous Louis le Gros, la croissance du royaume avait fait des progrès considérables. Le règne de son successeur faillit tout compromettre. Louis VII s'était très bien marié. Il avait épousé Éléonore de Guyenne, dont la dot était tout le sud-ouest. Par ce mariage, la France, d'un seul coup, s'étendait jusqu'aux Pyrénées. Les deux époux ne s'entendirent pas, et Louis VII paraît avoir eu de sérieux griefs contre la reine. La France aussi a eu son nez de Cléopâtre, qui a failli changer son destin. Toutefois, cette union orageuse ne fut annulée qu'après 15 ans, lorsque Suger, le bon conseiller, eut disparu. Ce divorce fut une catastrophe. Bien qu'Éléonore ne fût plus jeune, elle ne manqua pas de prétendants, et elle porta sa dot à Henri Plantagenet, comte d'Anjou. C'était une des pires conséquences du démembrement de l'État par le régime féodal que les territoires suivaient le titulaire du fief, homme ou femme, comme une propriété. Dans ce cas, la conséquence fut d'une gravité sans pareille. Le hasard voulut en outre que le comte d'Anjou hérita presque tout de suite de la couronne d'Angleterre, 1154. Le Plantagenet se trouvait à la tête d'un royaume qui comprenait, avec son domaine angevin, la Grande-Bretagne et la Normandie, et, par Éléonore de Guyenne, l'Auvergne, l'Aquitaine. Serré entre cet État et l'Empire germanique, que deviendrait le Royaume de France? Si miracle qu'il n'ait pas été écrasé. La fin du règne de Louis VII se passa à écarter la tenaille et à défendre les provinces du Midi contre l'envahissement anglo-normand. Une grande lutte avait commencé. Elle ne devait avoir de trêve qu'avec Saint-Louis. Ce fut la première guerre de 100 ans. Assurément, on ne s'est pas battu tous les jours de ces 100 années. Et d'autres événements ont coupé cette guerre, des croisades par exemple, à peu près comme les expéditions du Tonkin et du Maroc entre les deux guerres franco-allemandes. Un très petit nombre d'hommes suffisait à ces campagnes, où la prise d'un château décidait d'une province. Ne se battaient d'ailleurs que des chevaliers, militaires par le statut féodal et par état. Quand des levées de milices communales avaient lieu, elles étaient partielles, locales et pour un temps très court. Rien qui ressemblât, même de loin, à notre conscription et à notre mobilisation. Les hommes de ce temps eussent été bien surpris de savoir que ceux du XXe siècle se croiraient libres et que, par millions, ils seraient contraints de faire la guerre pendant 5 années. Lorsque des milices étaient convoquées, au XIIe et au XIIIe siècle, c'était pour une période limitée au-delà de laquelle il n'y avait pas moyen de les retenir. Pour conduire cette lutte contre l'État anglo-normand, il se trouva un très grand prince, le plus grand que la tige capétienne eût donné, depuis Hugues Capet. Philippe Auguste, devenu roi avant l'âge d'homme, car il était né tard du second mariage de Louis VII, fut d'une étonnante précocité. Chez lui, tout était volonté, calcul, bon sens et modération. En face de ces deux fous furieux, Richard Cœur de Lion et Jean Santerre, fils d'Éléonore et d'Henri Plantagenet, Philippe Auguste représente le réalisme, la patience, l'esprit d'opportunité. Qu'il alla à la croisade, c'était parce qu'il était convenable d'y aller. Il rentrait au plus vite dans son royaume, qui l'intéressait bien davantage, laissant les autres courir les aventures, profitant, pour avancer ses affaires, de l'absence et de la captivité de Richard Cœur de Lion. Chez Philippe Auguste, il y a déjà des traits de Louis XI. Ce fut en somme un règne de savante politique et de bonne administration. C'est pourquoi l'imagination se réfugia dans la légende. La littérature emporta les esprits vers des temps moins vulgaires. Le Moyen-Âge lui-même a eu la nostalgie d'un passé qui ne semblait pas prosaïque et qu'il avait été pareillement. Ce fut la belle époque des chansons de geste et des romans de chevalerie. Le siècle de Saladin et de Lusignan, celui qui a vu Baudouin, empereur de Constantinople, apparu plat aux contemporains. Et ils se sont réfugiés pour rêver auprès de Lancelot du Lac et des chevaliers de la Table Ronde. Il faudra 400 ans pour qu'à son tour, fuyant son siècle, celui de la Renaissance, le Tasse découvre la poésie des croisades. Philippe Auguste n'avait qu'une idée, chasser les Plantagenets du territoire. Il fallait avoir réussi avant que l'empereur allemand, occupé en Italie, eut le loisir de se retourner contre la France. C'était un orage que le Capétien voyait se former. Cependant, la lutte contre les Plantagenets fut longue. Elle n'avançait pas. Elle traînait en siège, en escarmouche, où le roi de France n'avait pas toujours l'avantage. Henri, celui qui avait rendu si puissant son mariage avec Éléonore de Guyenne, était mort. Richard Cœur de Lion, après tant d'aventures romanesques, avait été frappé d'une flèche devant le château de Chalut. Ni d'un côté ni de l'autre, il n'y avait encore de résultat. Vint Jean Santerre. Sa démence, sa cruauté, offrirent à Philippe Auguste l'occasion d'un coup hardi. Jean était accusé de plusieurs crimes, et surtout d'avoir assassiné son neveu, Arthur de Bretagne. Cette royauté anglaise tombait dans la folie furieuse. Philippe Auguste prit la défense du droit et de la justice. Jean était son vassal. La confiscation de ses domaines fut prononcée pour cause d'immoralité et d'indignité, 1203. La loi féodale, l'opinion publique, était pour Philippe Auguste. Il passa rapidement à la saisie des terres confisquées, où il ne rencontra qu'une faible résistance. Fait capital, la Normandie cessait d'être anglaise. La France pouvait respirer. Et, tour à tour, le Maine, l'Anjou, la Touraine, le Poitou tombèrent entre les mains du roi. Pas de géant pour l'unité française. Les suites du divorce de Louis VII étaient réparées. Il était temps. Philippe Auguste s'occupait d'en finir avec les alliés que Jean Santerre avait trouvés en Flandre lorsque l'empereur Othon s'avisa que la France grandissait beaucoup. Une coalition des rancunes et des avidités se forma. Le Plantagenet, l'empereur allemand, les féodaux jaloux de la puissance capétienne, c'était un terrible danger national. Si nous pouvions reconstituer la pensée des Français en l'an 1214, nous trouverions sans doute un état d'esprit assez pareil à celui de nos guerres de libération. L'invasion produisait déjà l'effet électrique qu'on a vu par les volontaires de 1792 et par la mobilisation de 1914. Devant le péril, Philippe Auguste ne manqua pas non plus de mettre les forces morales de son côté. Il avait déjà la plus grande, celle de l'Église, et le pape, Innocent III, adversaire de l'Empire germanique, était son meilleur allié européen. Le pacte conclu jadis avec la papauté par Pépin et Charlemagne continua d'être bienfaisant. Philippe Auguste en appela aussi à d'autres sentiments. On forcerait à peine les mots en disant qu'il convoqua ses Français à la lutte contre l'autocratie et contre la réaction féodale, complice de l'étranger. Il n'y a plus qu'une indication dans les paroles que lui prête la légende au moment où il s'engagea dans la bataille de Bouvines. « Je porte la couronne, mais je suis un homme comme vous. » Et encore, « Tous vous devez être rois, et vous l'êtes par le fait, car sans vous je ne puis gouverner. » Les milices avaient suivi d'enthousiasme et, après la victoire qui délivrait la France, ce fut de l'allégresse à travers le pays, qui oserait assigner une date à la naissance du sentiment national. Ce règne s'acheva dans la prospérité. Philippe Auguste aimait l'ordre, l'économie, la bonne administration. Il se contenta de briser le royaume anglo-normand et d'ajouter au territoire les provinces de l'Ouest, de restituer la Normandie à la France. Il se garda d'aller trop vite et, après Bouvines, d'abuser de la victoire. Son fils, Louis VIII, s'était lancé à la conquête de l'Angleterre. Philippe Auguste le laissa partir sans s'associer à l'aventure qui, bien commencée, devait finir mal. Il préférait organiser ses domaines avec prudence, avec méthode, imposant l'autorité royale, développant par les baillis un ordre administratif jusqu'alors embryonnaire, créant des finances, enfin, dotant l'État de ses principaux organes. La société du Moyen-Âge, qui allait s'épanouir avec Saint-Louis, est déjà formée sous Philippe Auguste. Quelques-uns des caractères qui distingueront l'État français jusqu'à nos jours et qui étaient en germe sous les premiers Capétiens s'accusent aussi. Déjà, cet allié de l'Église n'aime pas plus la théocratie que la féodalité. S'il trouve fort bon que le pape fasse et défasse des empereurs en Allemagne, il ne souffre pas d'atteinte à l'indépendance de sa couronne. À l'intérieur, il se défend contre ce que nous appellerions les empiétements du clergé. Il y a déjà, chez le grand-père de Saint-Louis, quelque chose qui annonce Philippe le Bel. Ce qu'on rattache d'ordinaire le plus mal à ce grand règne, c'est la croisade contre les Albigeois, qu'était l'hérésie albigeoise, un mouvement politique. On y reconnaît ce qui apparaîtra dans le protestantisme, une manifestation de l'esprit révolutionnaire. Il y a toujours eu en France des éléments d'anarchie. D'époque en époque, nous retrouverons de ces violentes poussées de révolution, suivies, tôt ou tard, d'une réaction aussi vive. Et toujours, révolution et réaction ont pris la forme d'une guerre religieuse, d'une lutte d'idées. Comme les protestants, les albigeois prétendaient purifier le christianisme. Ils s'insurgeaient contre la hiérarchie ecclésiastique et contre la société. Si l'on en croit les contemporains, leur hérésie venait des bogomiles bulgares, qui furent comme les bolcheviks du Moyen-Âge. Ce n'est pas impossible, car les idées circulaient alors aussi vite que de nos jours. Il est à remarquer en outre que le Languedoc, les Cévennes, âpre région où le protestantisme trouvera plus tard ses pasteurs du désert, furent le foyer de la secte albigeoise. Elle se développa avec la tolérance de la féodalité locale, jusqu'au jour où la croisade fut prêchée à travers la France, au nom de l'ordre autant qu'au nom de la foi. Dès le moment où Simon de Montfort et ses croisés se mirent en marche, l'affaire changea d'aspect. Elle devint la lutte du Nord contre la féodalité du Midi et la dynastie toulousaine. L'adversaire était le comte de Toulouse, au moins autant que l'hérésie. Le Nord triompha, mais avec un sens politique profond. Philippe Auguste refusa d'intervenir en personne et d'assumer l'odieux de la répression. Il n'avait que peu de goût pour les croisades, et celle-là, s'il y eût pris part, eût gâté les chances de la monarchie dans la France méridionale. La féodalité du Sud ne se releva pas de cette lutte. Du moins, les rancunes qui en restèrent n'atteignirent pas le Capétien. Elles ne compromirent pas son œuvre d'unité. En mourant, 1223, Philippe Auguste ne laissait pas seulement une France agrandie et sauvée des périls extérieurs. Il ne laissait pas seulement un trésor et de l'ordre dedans. Sa monarchie était devenue si solide qu'il put négliger la précaution qu'avaient observée ses prédécesseurs. Il ne prit pas la peine d'associer son fils aîné au trône avant de mourir. Louis VIII lui succéda naturellement et personne ne demanda qu'une élection eût lieu. À peine se rappelait-on qu'à l'origine, la monarchie avait été élective. De consul à vie, les Capétiens étaient devenus rois héréditaires. Depuis Hugues Capet, il avait fallu près de 2 siècles et demi pour que l'hérédité triomphât. Événement immense. La France avait un gouvernement régulier, au moment où les empereurs d'Allemagne tombaient les uns après les autres, au moment où l'autorité du roi d'Angleterre était tenue en échec par la grande charte de ses barons. Mais il était temps que la monarchie française n'eût plus à se soucier de la succession au trône. Le règne de Louis VIII, occupé à poursuivre l'œuvre de son père contre les Anglais, encore installés dans le sud-ouest, et contre la dynastie toulousaine, encore puissante dans le midi, ce règne fut court. En 1226, lorsque Louis VIII mourut, son fils aîné avait 11 ans. Les minorités ont toujours été un péril. Celle-là compte parmi les plus orageuses. Le règne de Saint-Louis commençait comme celui de Louis XIV par une fronde encore plus dangereuse, car ceux qui la conduisaient étaient de puissants féodaux. Les vaincus de Bouvines étaient avides de prendre leur revanche et d'en finir avec l'unificateur capétien. Les conjurés contestaient la régence de Blanche de Castille. Ils cherchaient à déshonorer la veuve de Louis VIII en répandant le bruit de son inconduite et lui reprochaient d'être une étrangère. Ils étaient même prêts à mettre la couronne sur une autre tête. L'énergie et l'habileté de Blanche de Castille réussirent à dissoudre cette ligue qui, par bonheur, ne trouva pas d'appui à l'étranger. Mais le trouble avait été grave dans le royaume. Le danger avait été grand. 2 fois, le jeune roi faillit être enlevé. La fidélité des bourgeois de Paris le sauva, et elle sauva la France d'une rechute dans l'anarchie. Ce fut la première victoire de l'idée de légitimité, une idée qui avait déjà des négateurs. Ce fut aussi, le mot a été employé, et il n'a rien d'excessif, la première restauration. L'Espagnol, maire de Saint-Louis, eut une régence aussi difficile et aussi brillante que celle d'Anne d'Autriche le sera. Elle ne défendit pas seulement la couronne contre les mécontents. Elle réunit le Languedoc au royaume, cueillant ainsi, grâce à la prudente obstination de Philippe Auguste, le fruit politique de la guerre contre les Albigeois. À l'ouest, le comte de Bretagne, Pierre Mauclerc, un capétien qui avait mal tourné, un des conjurés de la Ligue, avait appelé les Anglais à son aide. Il fut également battu et des garnisons royales occupèrent les principales places bretonnes. Quelle tâche longue et malaisée que de faire la France! Tout était sans cesse à recommencer. En 1236, Louis IX est majeur. Il vient d'épouser Marguerite de Provence, mariage politique qui prépare la réunion d'une autre province. Mais les époux ont d'étranges affinités. Leurs sentiments sont les mêmes. Le Saint-Roi a près de lui une véritable sainte. Quel est ce règne étonnant qui s'ouvre? Si le phénomène est d'une incomparable beauté, s'il est unique dans l'histoire, il n'échappe pourtant pas à une sorte de règle. Le règne de Saint-Louis succède à ce que l'on pourrait appeler, en forçant un peu les mots, le rationalisme du temps de Philippe Auguste. C'est une réaction. La royauté capétienne a déjà vu Robert le Pieux succéder à Hugues. Saint-Louis représente un retour à l'idée du prêtre-roi. Il est en harmonie avec son temps, celui de saint Thomas d'Aquin, marqué par un renouveau de la foi chrétienne. Toute proportion gardée, c'est ainsi qu'après les encyclopédistes, le début du XIXe siècle verra le génie du christianisme et une renaissance religieuse. Mais la monarchie a grandi. Louis IX, ce n'est plus le pieux Robert qui s'enfermait dans son oratoire. La monarchie a des devoirs, des traditions, une vitesse acquise. Saint-Louis continuera ses prédécesseurs. Seulement, il les continuera en développant un élément que, jusqu'à lui, la dynastie capétienne n'avait qu'à peine dégagé. Les qualités de sa race, il les poussera jusqu'à la vertu, jusqu'à la sainteté. La royauté française était un peu terre à terre. Par lui, elle prendra un caractère de grandeur spirituelle dont elle gardera toujours le reflet. On a remarqué que la plupart des autres maisons royales ou impériales d'Europe avaient pour emblème des aigles, des lions, des léopards, toutes sortes d'animaux carnassiens. La maison de France avait choisi 3 modestes fleurs. Saint-Louis a été la pureté des lys. La ferveur religieuse qui l'entraîna à des croisades était assez nouvelle chez les Capétiens. Elle n'excluait chez lui ni la hardiesse, ni la finesse, ni le sens de la politique. Saint-Louis savait frapper fort et frapper juste. À la bataille de Taillebourg, en 1242, il avait brisé le dernier retour offensif des Plantagenêts. On a admiré que, parti pour délivrer Jérusalem, il fût allé comme Bonaparte, droit en Égypte, clé de la Palestine et de la Syrie. Cette expédition tourna mal. C'était la fin des croisades, et le royaume chrétien de Jérusalem ne pouvait plus être sauvé. Saint-Louis fut fait prisonnier par les Malmouks après des combats chevaleresques, et ne recouvra sa liberté qu'en payant rançon. Sa mère, vieille, le rappelait en France, inquiète de l'anarchie des pastoureaux. C'était encore un de ces mouvements révolutionnaires compliqués de mysticisme qui revenaient périodiquement. La bourgeoisie des villes se chargea de l'écraser. Tout était rentré dans l'ordre au retour de Louis IX. Son vœu, sa croisade, son échec avaient encore épuré son âme. Il fut alors lui-même et mit la justice et la moralité à la base de son gouvernement. On ne l'a pas toujours compris. De son temps même, il ne manquait pas de gens pour le trouver un peu exalté. Lorsqu'il décida, lui, le vainqueur de Taillebourg, de rendre au roi d'Angleterre de magnifiques provinces françaises du sud-ouest, ce fut de l'indignation. La postérité s'en est étonnée elle-même, car le propre de l'histoire est d'être presque toujours mécontent et de reprocher aux uns leur avidité, aux autres leur désintéressement. Louis IX a expliqué lui-même cette restitution par des raisons naturelles. Il voulait, entre lui et son cousin d'Angleterre, mettre fin à l'état de guerre, amener un apaisement véritable. En somme, Louis IX transigeait avec Henri III. S'il lui rendait des provinces, Henri III renonçait à revendiquer celles qu'il avait perdues, notamment la Normandie, ce qui était important puisque les Plantagenets avaient refusé jusque-là de regarder comme définitives les annexions de Philippe Auguste. En outre, Henri III reconnaissait la suzeraineté du roi de France sur la Guyenne et les territoires rétrocédés. C'était donc un marché, c'était l'arrangement qui vaut mieux qu'un procès. La pensée de Saint-Louis était politique et non pas mystique. Il portait seulement plus haut que les autres capétiens la tendance de sa maison, qui était de mettre le bon droit de son côté. Certes, il s'est trompé s'il a cru qu'il assurait pour toujours la paix avec l'Angleterre. Rien ne permet de lui attribuer cette pensée. Ce n'était qu'un règlement provisoire, une trêve. En prenant soin d'exiger d'Henri III l'hommage de vassalité, Saint-Louis marquait assez qu'il réservait l'avenir. Tant mieux si la France pouvait un jour se libérer pacifiquement des Anglais. Mais il ne renonçait à rien. À l'intérieur également, le règne de Saint-Louis fut celui de la justice. Ce ne fut pas celui de la faiblesse. Il eut la justice des justiciers, et on savait fort bien faire pendre, même les barons. Il y avait aussi une sainteté de l'ordre et des lois. Louis IX continua l'œuvre des légistes. Il en avait pour ami, en l'adoucissant de christianisme et d'humanité. Bataille n'est pas voie de droit, disait-on, pour refuser les jugements de Dieu. C'est comme juge royal, sous le chêne de Vincennes, que son souvenir est resté populaire. Il ne se contentait pas de prêcher d'exemple. Il organisait les tribunaux, la procédure. Il mettait le Parlement au-dessus des autres juridictions. C'est sous son règne que cette cour d'appel et de justice reçoit ses attributions principales, et le Parlement jouera un grand rôle dans notre histoire. En unifiant le droit, il unira la nation. Il renforcera l'État en éliminant peu à peu les justices féodales, jusqu'au jour où le Parlement lui-même, devenu pouvoir politique, sera un danger pour la monarchie. Réformateur judiciaire, Saint-Louis fut aussi un réformateur de la société. Il pousse à la libération des serfs, il étend le droit des bourgeois. Surtout, il organise les corporations. L'existence et les droits de l'ouvrier reçoivent protection dans un ordre social chrétien, inscrit au célèbre livre des métiers. Si la figure de Saint-Louis est devenue si vite idéale, si elle est restée légendaire, ce n'est pas seulement parce que ce roi était bon, juste et charitable, c'est parce que, sous son règne, par la bonne droiture, comme disait Joinville, la France était devenue plus prospère, la vie plus douce, plus sûre, plus humaine. Il légua la monarchie capétienne et à la France une renommée qui ne s'effacera plus. Ce pieux roi, il ne faudrait pas le prendre pour un roi clérical. Pas plus que celle de Philippe Auguste, sa monarchie n'est une théocratie. Le roi n'est pas l'esclave du clergé, dont la noblesse n'est pas davantage l'associée. C'eût été trop simple. À chaque instant, les intérêts diffèrent, les conflits et les compétitions éclatent. La piété, la sainteté même de Louis IX le rendait plus indépendant qu'un autre dans ses relations avec l'Église, parce qu'il était insoupçonnable du point de vue de la foi. Michelet remarque, avec raison, que s'il n'y avait eu Saint-Louis, Philippe le Bel n'eût peut-être pas osé entrer en lutte avec le pape. Louis IX eut une fin de micelle et de vitrail. Les nouvelles d'Orient étaient mauvaises. Le royaume chrétien de Jérusalem s'en allait par morceaux. Il voulut empêcher que l'œuvre de 2 siècles fût anéantie. Mais l'enthousiasme des croisades était tombé, l'ardeur de la renaissance religieuse aussi. Cette fois, Joinville ne partit pas et remercia Dieu de le laisser à la maison. Avec Saint-Louis, les croisades allaient finir. Son frère, Charles d'Anjou, qui avait conquis la Sicile et qui n'avait en tête que des idées politiques, le dirigea vers Tunis, face à la côte sicilienne. À peine arrivé à l'endroit où avait été Carthage, le Saint-Roi, comme l'appelait déjà la renommée, mourut de la peste en répétant le nom de Jérusalem, que personne n'entreprendrait plus de délivrer après lui. À sa mort, 1270, il y a près de 300 ans que règnent les Capétiens. Les progrès sont considérables, et le plus sensible, c'est que l'État français, dont les traits principaux sont fixés, a pris figure au dehors. Il est sorti victorieux de sa lutte avec les Plantagenets, la menace allemande a été conjurée, et maintenant l'Angleterre et l'Allemagne sont en pleine révolution. Saint-Louis, en mourant, laissait à son fils, avec des enseignements dignes de lui, une situation excellente, mais qui allait comporter des développements imprévus. Ce qui fait la complexité de l'histoire, c'est que les événements sortent sans fin les uns des autres. La dernière croisade de Louis IX, en coûtant la vie à plusieurs princes et princesses, ouvra des héritages à son successeur Philippe III. La monarchie, depuis Louis VIII, appliquait un système qui avait ses avantages et ses inconvénients. Quand des provinces étaient nouvellement réunies, elles étaient données en apanage à des princes capétiens, afin de dédommager les fils puniers et d'éviter les jalousies et les drames de famille où s'était abîmée la dynastie des Plantagenets. On pensait que cette mesure transitoire aurait en outre l'avantage de ménager le particularisme des populations, de les accoutumer à l'administration royale, tout en formant autour du royaume proprement dit des principautés confédérées destinées tôt ou tard à faire retour à la couronne à défaut d'héritier mâle. Ce calcul ne fut juste qu'en partie, ce qui arrive souvent en politique. Quelques-uns des apanagés, en petit nombre d'ailleurs, furent ingrats et indociles. Toutefois, le fils de Saint-Louis recueillit tout de suite plusieurs héritages, dont celui de Toulouse. Mais le comte de Toulouse avait des vassaux qui refusèrent de reconnaître la suzeraineté du roi de France. Ils appelèrent le roi d'Aragon à leur aide. Philippe III, qui gagna à ses campagnes le nom de Hardy, fut obligé de défendre la frontière des Pyrénées. L'Espagne entrait dans nos préoccupations politiques. À peu de temps de là, ce fut la succession de Navarre qui mêla le roi de France aux affaires espagnoles. Nos frontières méridionales ne pouvaient être atteintes sans conflit avec l'Aragon et la Castille. En même temps, Philippe III était attiré en Italie par d'autres circonstances. Nous avons déjà vu que Charles d'Anjou était devenu le roi de Naples et de Sicile. Le frère de Saint-Louis avait été appelé par un pape français désireux de mettre fin en Italie à l'influence gibeline, c'est-à-dire allemande. Charles d'Anjou avait accepté, après de longues hésitations, de Louis IX, et son succès fut complet. Pour en finir avec les intrigues allemandes, il fit condamner à mort le jeune Conradin, l'héritier des Hohenstaufen, dont les Allemands, 600 ans plus tard, au dire d'Henri N, ne nous avaient pas encore pardonné l'exécution. La révolte des Siciliens, restée fameuse sous le nom de Vêpres siciliennes, commença la décadence du royaume français de Naples. La France elle-même s'en trouvait atteinte, et Philippe III dut venir au secours de son oncle. Le roi d'Aragon s'en mêla, et l'on eut ainsi la première image des futures guerres d'Italie, avec leurs complications germaniques et espagnoles. Pour être tranquille sur les Pyrénées, pour garder la Méditerranée libre, la France se trouvait entraînée trop loin. Il allait falloir se dégager. Philippe le Hardy mourut, en 1285, au retour d'une deuxième expédition, cette fois en Catalogne. Son fils, Philippe le Bel, n'avait que 17 ans, mais il était singulièrement précoce. Il jugea bientôt que cette affaire de Sicile était épuisante et sans issue, et il s'efforça de la liquider avec avantage et avec honneur. Il appliquait déjà sa maxime « Nous qui voulons toujours raison garder ». Il n'était pas raisonnable de courir des aventures lointaines lorsque la France n'était pas achevée. Et puis, les dernières croisades suivies de ces affaires italiennes et espagnoles avaient été dispendieuses. Il fallait créer des impôts qui mécontenteraient le contribuable et demander de l'argent à tout le monde, même au clergé, ce qui fut l'origine des démêlés du nouveau roi avec le pape. C'est la première fois que nous avons à parler d'une crise financière. Mais la monarchie avait créé des finances, organisé l'administration. Ce qui se faisait, autrefois au hasard, les dépenses qu'on couvrait par des moyens de fortune, par des dons plus ou moins volontaires, Tout cela devenait régulier. La machine de l'État commençait à marcher, à distribuer de la sécurité, de l'ordre, mais elle coûtait cher. Faire la France coûtait cher aussi. Ces difficultés, que nous connaissons de nouveau aujourd'hui, dureront des siècles. À beaucoup d'égards, il y a eu une curieuse ressemblance entre le règne de Philippe le Bel et celui de Louis XIV. Tous deux ont été en conflit avec Rome. Philippe IV a détruit les puissances d'argent, celles des Templiers surtout, comme Louis XIV abattra Fouquet. Philippe le Bel, enfin, a été attiré par la Flandre, comme le sera Louis XIV, et cette province, d'une acquisition si difficile, l'engagera aussi dans de grandes complications. Il y a comme un rythme régulier dans l'histoire de notre pays, où les mêmes situations se reproduisent à plusieurs centaines d'années de distance. Cependant, l'effet apaisant de l'arrangement conclu par Louis IX était épuisé. Un jour ou l'autre, la lutte devait reprendre avec les Anglais. Ils étaient toujours établis en Guyenne, maîtres de Bordeaux, et c'était une cause de conflit continuel. Il fallait que la France n'eût plus d'enclave anglaise ou que l'anglais fût maître de la France. L'alternative ne tardera pas à se poser. On dira que, si l'Angleterre avait été sage, elle aurait évacué des territoires nettement français. Mais l'Angleterre, insulaire et maritime, a toujours dû avoir des possessions au dehors. Nos provinces, dans un temps où le monde était plus étroit, lui tenaient lieu de colonies. Il lui semblait aussi naturel d'être à Bordeaux qu'aujourd'hui d'être à Bombay. Les gouvernements avaient longtemps reculé une explication inévitable. Les populations eurent moins de patience que les rois. Édouard Ier et Philippe le Bel ne se déclarèrent pas la guerre. Elle éclata spontanément entre les marins normands et ceux de Bordeaux. Les gouvernements y furent entraînés après une longue procédure. Philippe le Bel ayant voulu juger et condamner Édouard, comme l'avait été Jean Santerre. Cette fois, le moyen juridique ne réussit plus. Le conflit était devenu celui de deux nations, et le roi anglais était opiniâtre. Philippe le Bel comprit qu'une lutte grave s'ouvrait, et il eut le premier cette idée que, pour combattre l'Angleterre, c'était sur mer qu'il fallait l'atteindre. La France commençait à avoir une marine. Les croisades, les expéditions de Sicile et d'Espagne avaient commencé à former des marins. Philippe le Bel appela dans la Manche les navires qu'il avait dans la Méditerranée. Les Génois construisirent à Rouen un arsenal et une escadre et lui donnèrent un amiral. Alors, Édouard Ier, alarmé de cette force maritime naissante, suscita contre la France une coalition européenne, la même que celle de Bouvines. Philippe le Bel, à son tour, chercha des alliés et répondit par un véritable blocus continental auquel prirent part la Suède, la Norvège, les villes de la Hanse, les États ibériques. Mais à ce blocus qui devait étouffer l'Angleterre, la Flandre refusa de s'associer parce que ses tissages avaient besoin de la laine anglaise. Il fallait renoncer à la guerre économique, ou bien forcer la Flandre à servir la politique française. Entre les deux belligérants, le pays flamand, la future Belgique, devenait le véritable enjeu. On voit le caractère moderne de cette guerre où Philippe le Bel fit tête avec sang-froid au plus grand péril. L'empereur germanique, Adolphe de Nassau, était entré dans la coalition ennemie et, par un manifeste insolent, avait revendiqué au nom de l'Empire des droits et des territoires, notamment Valenciennes. À cette réclamation, Philippe ne répondit que par deux mots écrits sur un vaste parchemin « trop allemand ». Ces deux mots, que certains conseillers du roi avaient trouvés trop rudes et imprudents, eurent un effet magique. Adolphe sentit que la France était prête à résister, et il n'insista pas. D'ailleurs, Philippe le Bel s'était assuré des concours allemands, selon une méthode désormais classique, et il eut aussi l'appui de la papauté. Véritable conflit européen, où l'on vit en jeu les ressorts et les éléments de futures guerres européennes. Quand la paix fut signée avec l'Angleterre, au bout de 5 ans, en 1299, l'objet de la lutte, comme il arrive souvent, avait été perdu de vue. Un arrangement fut conclu pour la Guyenne avec Édouard Ier, qui épousa Marguerite de France. Mais la Flandre était désormais le principal souci de Philippe le Bel. Conduit à la conquérir par le développement de la guerre avec les Anglais, il se heurtait à la résistance des Flamands. Ce peuple de tisserands bâtit à Courtrai la chevalerie française. Ce fut la journée des éperons, 1302. Il fallut organiser une véritable expédition pour venir à bout de la révolte. De ce côté, l'expansion de la France rencontrait des limites. Alors que presque partout, les nouvelles provinces s'étaient données joyeusement, une nation se manifestait en Flandre. Un jour, ce sera la nation belge. Philippe, toujours judicieux, le comprit. Il se contenta de confirmer sa suzeraineté sur le pays flamand et de garder en gage les parties les plus proches de la France. Lille et Douai, plus accessibles à l'influence française. Nul ne serait français par force. Ces affaires furent une des causes de la célèbre dispute qui éclata entre le pape et Philippe le Bel. Boniface VIII avait pris fait et cause pour le comte de Flandre et sa fille, que le roi avait traité en rebelle et qu'il gardait prisonnier. En somme, le pape, chef suprême de la chrétienté, victorieux dans sa longue lutte avec les empereurs germaniques, trouvait naturel de contrôler les gouvernements. C'est ce que Philippe le Bel n'accepta pas et, contre la papauté, il défendit les droits de la couronne et l'indépendance de l'État français. Boniface VIII s'était mêlé de choses qui ne le regardaient pas. Il ne se contentait pas de reprocher à Philippe le Bel d'avoir touché ou saisi les revenus de l'Église, le grand souci du roi, tandis qu'il était aux prises avec les difficultés européennes, était de ne pas laisser sortir d'argent de France. Le pape critiquait le gouvernement de Philippe le Bel. Il l'accusait d'oppression et de tyrannie. Intervenait même dans les finances, puisqu'un de ses griefs était l'altération des monnaies, mesure nécessitée par la guerre, elle aussi. Car en ce temps-là, où l'on n'avait pas la facilité d'imprimer des billets de banque, on mettait moins de métal précieux dans les pièces de monnaie, ce qui était la forme ancienne de l'inflation monétaire. Philippe le Bel reçut mal ses remontrances, et la France les reçut aussi mal que lui. Pour frapper les imaginations, comme s'y prendrait aujourd'hui la presse, le roi publia de la bulle Ausculta Fii un résumé qui grossissait les prétentions du pape. Il répandit encore, dans le style du trop allemand, une réponse insolente où Boniface était appelé « sa très grande fatuité », tandis que Philippe ne lui donnait que peu ou point de salut. Enfin, pour mieux marquer qu'il avait la France derrière lui, le roi convoqua des états généraux. On a prétendu de nos jours que c'était une innovation, que ces états de 1302 dataient une institution et l'origine des libertés publiques. À la vérité, il y avait toujours eu des assemblées. L'une d'elles, nous l'avons vu, avait élu Hugues Capet. Les bourgeois des villes, les gens de métier, avaient coutume de délibérer sur les questions économiques, en particulier celles des monnaies. La convocation de 1302 ne les surprit pas et ne paraît pas avoir été un événement, car l'élection des représentants de troisième ordre, outre le tiers-état, n'a pas laissé de traces, et tout se passa comme si une chose naturelle et ordinaire, puisque la convocation fut du mois de mars et qu'on se réunit dès avril à Paris, dans l'église Notre-Dame. Nobles, bourgeois, clergés même, tous approuvèrent la résistance de Philippe le Bel au pape. Le roi de France ne reconnaissait point de supérieur sur la terre. C'est l'expression dont Bourdaloue s'est servi plus tard pour donner, en exemple agréable à Louis XIV, la vigueur avec laquelle Saint-Louis avait agi pour défendre les droits de la couronne. Une tradition de la monarchie et de l'État français s'était formée. Boniface VIII, qui avait une grande force de caractère, n'était pas homme à céder. Il maintint sa prétention de convoquer à Rome un concile pour juger le Capétien et aviser à la réforme du royaume. Philippe le Bel était menacé d'excommunication s'il refusait de laisser partir pour Rome les prélats français. Toutefois, il cherchait à négocier. Sa nature le portait à épuiser les moyens de conciliation avant de recourir aux grands remèdes. C'est seulement quand il vit que le pape était résolu à l'excommunier et à user contre lui de ses forces spirituelles, ce qui eut peut-être amené un déchirement de la France, que Philippe prit le parti de prévenir l'attaque et de frapper un grand coup. Il était temps, car déjà la parole pontificale agissait, et le clergé, les ordres religieux, les templiers surtout, hésitaient à suivre le roi et à donner tort à la papauté. C'est alors que le chancelier Guillaume de Nogaret se rendit à Rome, trouva Boniface VIII à Aniaghi et s'empara de sa personne. Délivré, le pape mourut d'émotion quelques jours plus tard, 1303. Cette audace, cette violence, étonnèrent l'Europe. On avait vu un César germanique s'humilier à Canossa devant Grégoire VII. Le roi de France triomphait. Il avait osé faire violence au pontife sans rompre le mariage des fleurs de lys avec la papauté. Les bulles de Boniface VIII étaient annulées. Le roi de France était maître chez lui. Il avait joué gros jeu pour sauver son autorité et l'unité morale du royaume. Le signe de sa victoire, ce fut que Clément V, ancien archevêque de Bordeaux, passa pour un pape français et s'établit à Avignon. Pendant trois quarts de siècle, les papes y resteront sous la protection de la monarchie française. Ces résultats, Philippe le Bel ne les avait pas cherchés. Ils vinrent naturellement, comme une suite de choses. Ce règne a une explication, la Flandre. Il a une clé, Courtrai. Si l'annexion de la Flandre était superflue, sa soumission était nécessaire au dessein national du roi. Il la fallait pour mettre la France en sûreté contre l'Angleterre. La défaite de Courtrai avait été un coup terrible. Cette défaite est de 1302. L'acte brutal de Nogaret est de 1303. Le roi de France a dû agir pour défendre son prestige en Europe. Battu en Flandre, excommunié à Rome, abandonné peut-être par une partie de ses sujets, tout eût été perdu. L'affaire flamande, c'est-à-dire au fond l'affaire anglaise, a commandé la politique de Philippe le Bel. C'était aussi cette entreprise extérieure, longue et coûteuse, qui l'avait conduite à multiplier les impôts impopulaires. Les gouvernements en reviennent toujours aux mêmes impôts quand le trésor a de grands besoins. La maltote était notre taxe sur le chiffre d'affaires. Ils recourent aux mêmes expédients, la fabrication artificielle ou l'altération de la monnaie, qui ont la vie chère pour conséquence. On vit sous Philippe le Bel ce que nous avons vu jusqu'à une loi sur les loyers. Les Français d'alors supportaient fort mal ces inconvénients. Il y eut à Paris des émeutes où le roi faux-monnayeur fut en grand danger. Comment expliquer aux gens que la quantité de métal précieux retiré des écus représentait le prix qu'avait coûté la formation de la France? La livre, qui était une livre d'or sous Charlemagne, n'est plus de nos jours qu'un morceau de papier. La différence représente ce que nous avons dépensé pour devenir et rester français. Philippe le Bel, pour trouver de l'argent, s'adressa à ceux qui en avaient, et que l'opinion publique l'engageait à frapper. Il mit de lourdes taxes sur les marchands étrangers et sur les juifs qui faisaient le commerce de la banque. Et ceci pour se procurer des ressources qu'il détruisit l'ordre du Temple, oui et non. Le procès des Templiers se rattache au conflit avec Boniface VIII. L'ordre n'était pas seulement riche, il était puissant. C'était déjà un État dans l'État. Et il était international. En prenant parti pour Boniface VIII, il avait menacé l'unité du royaume. Le procès des Templiers, qui eut un si grand retentissement, fut avant tout un procès politique. Philippe le Bel ne fut si acharné à brûler comme hérétique de nombreux chevaliers et leur grand maître, Jacques de Molay, que pour donner à cette opération de politique intérieure un prétexte de religion et de moralité. Ce que nous trouvons sous ce règne, nous le retrouverons à toutes les époques, où le péril extérieur, la nécessité de défendre le pays et d'accomplir une grande tâche nationale ont conduit le gouvernement français à des mesures d'exception et à ne reconnaître pour loi que celle du salut public. Est-ce par hasard qu'on retrouve Salus Populi sur les monnaies de ce temps? Il ne faut pas oublier que Philippe le Bel réunit à la France de Charlemagne la Marche et Angoulême, Lyon et le Vivarais, qu'il maria son second fils, Philippe le Long, à l'héritière de Bourgogne, et qu'il garda de la dure entreprise de Flandre, Lille, Douai et Orchy. C'était, au milieu des pires difficultés, un des plus grands efforts d'expansion que la France eut accompli depuis le premier des Capétiens. Que les intérêts particuliers en aient souffert, ce n'est pas ce qui doit nous surprendre. Pourquoi l'histoire malveillante n'a-t-elle retenu que leurs plaintes? Les progrès territoriaux, l'autorité croissante de la France, exaltaient au contraire les esprits désintéressés. C'est alors que Pierre Dubois composa son fameux mémoire sur la politique française et le rôle européen de la monarchie et lui montra la route du Rhin. Nous l'avons déjà remarqué et nous le remarquerons encore. Les hommes de ce temps-là étaient plus difficiles à gouverner que ceux du nôtre. De nos jours, l'uniformité de l'administration a rendu la tâche du pouvoir relativement aisée. Au Moyen-Âge, les individus pouvaient encore braver l'État et les ligues de mécontentement le tenir en échec. Il se forma de ces ligues à la fin du règne de Philippe le Bel et il y entrait des nobles, des clercs, aussi bien que des bourgeois. Lorsque Philippe IV mourut, en 1314, il n'avait que 46 ans, le royaume était étrangement troublé. L'indiscipline était générale. Louis X fut surnommé Hutin, non qu'il fût querelleur ou batailleur comme on l'a cru, mais parce que son avènement survint dans ce temps de tumulte, hutin et de désordre. L'histoire ne s'arrête pas à ce règne, elle a tort. Une clé des grands événements qui vont suivre est là. Le contribuable est révolté, il refuse son argent, il faut veiller à la dépense. On fera des économies sur la marine, dispendieuse de tout temps, et soignée par Philippe le Bel comme la condition de notre réussite. Les ligues assiègent le jeune roi de réclamations insolentes. Toute l'œuvre politique et administrative des règnes précédents est en péril. Pour la sauver, Louis X doit calmer les mécontents, plier la voile devant la tempête. Il recourt même à la démagogie et sacrifie l'homme qui incarne le dernier gouvernement, ce Le Portier, bras droit de Philippe le Bel, qui est resté célèbre sous le nom d'Enguerrand de Marigny et qui était l'objet d'une impopularité formidable parce qu'il n'avait pas résisté à la tentation de s'enrichir. Peuple, bourgeois, barons, princes du même sang, chacun regarda, comme une vengeance personnelle, la pendaison de ce ministre roturier. Mais en mourant, dit très bien Michelet, il laisse à la royauté qui le frappe ses instruments de puissance, au peuple des institutions d'ordre et de paix. Plus tard, ce serviteur du pays sera réhabilité. Sa mise à mort avait été une diversion. Elle a peut-être empêché que de plus graves dommages fussent causés à l'œuvre du roi dont il avait été le collaborateur. Le pauvre Louis Hutin, voué à d'ingrates besognes, n'a guère laissé que ce nom bizarre et une célèbre ordonnance pour l'affranchissement des serfs de son domaine. Les 2 ans de son règne ne sont pas à négliger, bien que sa mort, trop tôt venue, ait compté plus que sa vie. Pour la première fois depuis 300 ans, un Capétien disparaissait sans laisser de fils. À qui la couronne irait-elle? Il n'y avait pas de loi constitutive du royaume. Née de l'élection, d'une sorte de consulat à vie devenu héréditaire, la monarchie n'avait pas de statut. L'usage, le bon sens suppléait. Il eût été absurde qu'une femme pût porter la France en dot à un étranger. Déjà, il était de règle que tout apanage retournât à la couronne, à défaut d'héritier mâle, et la royauté, par cette exception, échappait aux règles féodales. C'est pourquoi la couronne passa sans encombre, non à la fille que laissait Louis Hutin, mais à son frère, le 2e fils de Philippe le Bel, Philippe le Long. Il ne vint d'opposition que de quelques grands féodaux et des princes de Valois qui ne devaient pas tarder à profiter de cette règle comme héritier de France, et à la trouver fort reconnaissable. Cette opposition fut promptement écartée par l'Assemblée des notables qui fut convoquée à Paris. Chose curieuse, on éprouva le besoin de donner une base juridique à la succession, de mâle en mâle, dont tout le monde reconnaissait l'utilité, et l'on alla chercher, pour justifier une loi naturelle, je ne sais quelle loi des Francs-Saliens, d'où le nom baroque de loi salique. La France était décidément un pays de juristes et de grammairiens. Quelle qu'en fût la base, une règle était posée et elle serait salutaire. Nous savons ce qu'a donné la succession dans la ligne masculine. Nous ne savons pas ce qui fut advenu de la France si, comme en d'autres pays, la couronne avait pu être portée dans la ligne féminine. Cette fois, l'hérédité était bien établie. Ce qui est remarquable encore, c'est que personne ne pensa à rappeler les origines électives de la royauté. La raison décisive en faveur de Philippe le Long eût été qu'en 987, on n'aurait jamais songé à élire une femme. On n'en parla même pas, tant le principe héréditaire était enraciné. Philippe V ne régna guère plus que son frère aîné. Comme lui, il voulut en finir avec le butin. Si peu que la succession de son frère lui eût été contestée, Philippe se méfiait. Il voulut de l'ordre partout, brisa les ligues en s'appuyant sur les bonnes villes et sur l'université de Paris, courut sus à un nouveau soulèvement de pastoureaux. Lui aussi mourut jeune et sans laisser de fils en 1322. Cette fois, la couronne passa, sans plus de difficulté, à son frère Charles, surnommé le Bel, comme son père, et qui eut soin, étant le premier capétien qui s'appelait Charles, de prendre le numéro 4 pour se rattacher à la lignée de Charlemagne, de même que le premier Louis avait pris le numéro 6 pour attester la même filiation. Charles le Bel, comme ses frères, fut occupé à la police du royaume, et il eut la main rude. On pendit quelques financiers. Le peuple, après chaque règne, réclamait ses holocaustes. Quelques brigands féodaux furent aussi condamnés à mort. Ces choses se passaient tandis que l'Angleterre et l'Allemagne étaient en révolution. En Angleterre, le roi Édouard II, déposé, était tué dans sa prison, car le régicide n'est pas nouveau. Charles profita de ce désordre chez les Anglais pour mettre la Guyenne sous séquestre. En Allemagne, l'empereur, un Bavarois, était contesté, excommunié. Ses adversaires sollicitèrent l'aide du roi de France et lui offrirent même leur couronne impériale. Il fallait, pour que la France fût en sécurité, ses divisions chez nos voisins. Malheureusement, elles ne dureront pas. Charles le Bel, à son tour, mourut de bonne heure, en 1328. Comme ses frères encore, il ne laissait qu'une fille. La reine attendait un 2e enfant. Charles désigna son cousin Germain, Philippe de Valois, pour la régence. Mais la reine mit au monde une autre fille. Le régent, de fait, devint roi. La loi salique, la transmission de la couronne de mâle en mâle par ordre héréditaire, s'appliquait d'elle-même. Une assemblée, semblable à celle qui avait jadis élu Hugues Capet, approuva sur l'avis conforme des juristes. L'avènement de la branche cadette se passa donc aussi bien que possible. Il n'en est pas moins vrai qu'il y avait eu discussion et, dans un temps où les Français n'étaient pas très portés à respecter le pouvoir. Sans doute, il ne s'éleva qu'une réclamation, celle d'Édouard III, petit-fils de Philippe le Bel, par sa mère Isabeau. La réclamation fut écartée pour diverses raisons, dont la majeure fut qu'en France, on ne voulait pas être sujet du roi d'Angleterre. Mais la revendication d'Édouard servira bientôt de prétexte au besoin d'expansion du peuple anglais. Dans ce conflit, par lequel le royaume de France sera mis tout près de sa fin, l'ennemi ne manquera pas d'attaquer les titres de Philippe VI, que les Flamands appelleront le roi trouvé, et les Anglais l'usurpateur. Quelque chose restera, un certain discrédit qui sera manifeste dans la quasi-révolution d'Étienne Marcel. Si peu que la monarchie française soit contestée, elle l'est. Charles le Mauvais n'eût pas été possible au siècle précédent. Dans ces fâcheuses circonstances où la fortune abandonne pour la première fois les Capétiens, il y a le germe des prochaines calamités. Fin du chapitre 5.